Interview BO par Benoît Bazerico.
Je suis avec Jean-Christophe Manusso, auteur d'un livre sur John Williams, l'œuvre de John Williams, le chef d'orchestre des émotions. Jean-Christophe, tout d'abord, d'où vient cet intérêt pour cet auteur? Avant ce livre, il y en avait un précédent sur un autre compositeur de musique de film qui est Ennio Morricone. L'amour de la musique de John Williams, est-ce que c'est quelque chose qui est venu sur le tas ou qui est très ancien dans votre parcours?
La musique de John Williams m'a toujours accompagné en fait depuis mon enfance par les films qu'on a vus tous au cinéma, que ce soit Star Wars, Indiana Jones, tous les films qui ont marqué ma génération en tout cas. Et ces musiques-là ont été importantes dans le sens où elles font vraiment partie intégrante de ces films. Et non seulement elles les accompagnent, mais en fait elles en constituent l'essence en fait. Et du coup pour moi, consacrer un livre sur cet auteur, c'était incontournable parce que pour moi, c'est le compositeur qui symbolise vraiment l'excellence du cinéma hollywoodien.
Est-ce que pour ce livre-là, l'approche était différente d'Ennio Morricone dans la nature même du livre? La tentation éventuelle de refaire un dispositif comme un tome 2 du précédent, comme un catalogue des compositeurs. Et là, j'ai l'impression que vous avez décidé de faire complètement différemment.
J'avais envie d'un défi un peu différent. Avec le livre sur Morricone, c'était 3 ans de travail avec une plongée dans son œuvre et surtout beaucoup de rencontres avec des musiciens qui ont travaillé avec lui et des réalisateurs aussi. Et donc c'était un livre d'entretien mêlé avec de l'analyse et une plongée dans l'œuvre de Morricone qui s'étalait sur 900 pages. C'était assez conséquent. Et là, j'ai voulu, avec mon éditeur, faire quelque chose de plus ramassé avec moins d'entretien, mais plus d'analyse. Et vraiment, le but, c'était de passer en revue toutes les différentes époques de Williams, depuis ses débuts dans les années 60 jusqu'à l'époque d'aujourd'hui, pour voir comment son style avait évolué dans le système hollywoodien et comment est-ce que, en fait, il s'était adapté en fait, aux demandes de chaque réalisateur. Et c'était ça, vraiment, passer un petit peu dans la cuisine du compositeur, savoir comment il fonctionne, quels sont les projets auxquels il dit oui, ses choix de films, ses choix de réalisateurs, comment est-ce qu'il a géré tout ça, et comment aussi est-ce qu'il a pu mener de front, comme Morricone, plusieurs carrières, c'est-à-dire une carrière de compositeur pour le cinéma et une carrière de compositeur pour la salle de concert.
Il y a un point commun malgré tout entre les deux ouvrages, c'est dans le titre, le mot « émotion ». Le livre sur Ennio Morricone était « Entre émotion et raison » et le livre sur John Williams, c'est « Le chef d'orchestre des émotions ». Alors l'émotion est au cœur des deux livres. Est-ce que vous voyez une différence de traitement de l'émotion chez ces deux compositeurs?
C'est une bonne question. Je pense que les deux compositeurs et d'autres compositeurs aussi arrivent à toucher à l'émotion pure en fait, mais ils n'y arrivent pas forcément de la même façon. Chez Morricone, il y a vraiment un talent de mélodiste et qui est aussi ancré dans un côté très, très savant, alors que chez Williams c'est un petit peu différent. Il y a aussi ce côté savant mais qui ressort moins parce que c'est moins dans ses gènes, même si quand on écoute sa musique de concert, on s'aperçoit qu'il peut aller très loin dans la tonale et dans une musique très exigeante, mais quand elle n'est pas reliée à l'image. Mais quand l'image et quand la musique est reliée à l'image, Williams, il arrive en fait très bien à non seulement créer une atmosphère qui est propice au film, mais aussi, surtout, décrire ce qui se passe dans les personnages, dans la tête des personnages. Et c'est pour ça qu'à mon avis, le mot émotion apparaît dans les deux livres, c'est que ces deux compositeurs-là sont des maîtres de nos émotions, hein, parce que quand on va au cinéma, on est frappé par l'image, mais 50% c'est le son. Et le son, il parle directement à notre cœur, quoi. Je pense que que Williams est vraiment un maître à ce niveau-là.
La qualité de cet ouvrage sur John Williams, c'est qu'il arrive à conjuguer différentes approches, une approche chronologique, biographique, où il y a vraiment la vie de John Williams, d'où il vient et vers où il va. Il y a une approche analytique, où il y a une vraie analyse des musiques et des films, de l'intégration dans les films. Il y a des fiches films, où vraiment il y a les différents films incontournables de l'œuvre. Il y a aussi des anecdotes sur les coulisses. On apprend voilà, telle musique, comment elle est née, comment elle a été fabriquée. Et puis en plus, très intéressant, il y a le rattachement de l'œuvre de Williams au contexte de l'époque. Le contexte de l'époque de la société américaine, mais aussi le contexte du cinéma. Il est question évidemment d'Hollywood, la naissance d'Hollywood, la naissance du blockbuster. Vous comparez d'ailleurs dans ce livre l'œuvre de Williams à un château, avec les différentes pièces du château. Donc il y a le grenier, la cave, les chambres secrètes. D'après vous, alors, quelles seraient dans l'œuvre de Williams les œuvres qui correspondraient au grenier, à la cave, aux chambres secrètes? Est-ce que, comme ça, il y a différentes pièces réellement dans l'œuvre de Williams?
Bah oui, tout à fait, parce qu'il suffit de parler de John Williams à n'importe qui. La plupart des gens vont citer des pièces de ce château très connues, hein, que ce soit la pièce Indiana Jones, Star Wars, Superman, même Harry Potter. Mais en dehors de ces pièces très connues, moi j'ai vraiment eu envie d'explorer d'autres zones un petit peu moins balisées. Et c'est justement en faisant ça, c'est-à-dire en explorant systématiquement toutes les BO de John Williams de la fin des années 50 jusqu'à The Fablemans, jusqu'au dernier Indiana Jones, eh bien on s'aperçoit qu'il y a plein d'œuvres que lui-même semble avoir oubliées. En interview, il dit souvent « j'ai écrit beaucoup de choses, il y a des choses dont je ne me souviens plus, qui ne sont pas géniales », bon, parce qu'il a un côté très modeste. Mais si on explore, on trouve vraiment des pépites, quoi. Et vraiment, on trouve des BO dont on ne parle quasiment jamais, mais qui sont pourtant excellentes. Alors la première qui me vient en tête, c'est la BO de Images, un film de Robert Altman des années 70. Parce que j'aime bien parler de ce score, parce que c'est son score le plus atonal, en fait. C'est son score le plus expérimental. Il a fait appel à un percussionniste japonais. Et ils ont utilisé des instruments qui s'appellent le cristal bâché, des instruments de percussion assez rares. Et ça crée un score tout à fait hallucinant, qui gagne vraiment à être écouté en dehors du film. Il apporte beaucoup au film parce que c'est l'histoire d'une femme qui souffre de schizophrénie. Et on rentre dans la tête de cette femme qui est folle. Et le score est divisé en deux, une partie tonale, une partie atonale. Mais on peut très bien écouter la musique en dehors du film. C'est aussi un des buts de ce livre, c'est de montrer que la musique de film, ça s'écoute en dehors des films. Et Images, c'est pour moi un des scores les plus intéressants.
Pour accéder à ce château et nous révéler les différentes pièces, quelles ont été les clés pour ouvrir les portes? J'imagine l'écoute des BO elles-mêmes. Peut-être avez-vous revu des films, lu des interviews, etc. Quelles ont été voilà, les différentes sources?
J'ai revu effectivement tous les films, les 130 films qu'il a mis en musique. J'ai eu beaucoup de sources différentes, notamment un podcast américain dans lequel l'auteur a abordé chaque BO en détail, en donnant des secrets de fabrication, etc. Donc ça m'a été utile. J'ai lu aussi beaucoup de livres en anglais. En français, il y en a un qui est sorti dans les années 2010. On peut citer aussi le livre de Chloé Huvet, qui est sur Star Wars, qui m'a beaucoup aidé aussi. Parce qu'en fait, la musique, quand on veut en parler en détail, soit il faut être musicien, soit il faut avoir des notions quand même de musique. Et c'est bien de s'appuyer sur des sources de gens qui s'y connaissent très bien, des musicologues, parce que même si on ne maîtrise pas forcément tous les critères, parce que c'est très complexe la musicologie, on peut au moins maîtriser les bases et éviter de dire des bêtises, quoi.
Et dans l'aspect biographique, vous relatez donc son parcours, vous rappelez évidemment qu'il vient du jazz, hein, qu'il a travaillé au début avec Henry Mancini, vous citez ses références du symphonisme hollywoodien, et vous évoquez l'idée qu'il est à cheval entre deux époques, à la fois le jazz à Hollywood et un retour du symphonisme. Comment vous expliquez qu'il soit responsable de ce symphonisme nouveau à Hollywood, tout en provenant du jazz?
Le parcours de Williams, il est intéressant parce qu'il a eu un enseignement vraiment très classique, notamment à la Juilliard School. Et ensuite, sa famille a déménagé plusieurs fois pour se fixer enfin à Hollywood, où son père travaillait. Et donc, c'est par son père qu'il a eu accès à l'industrie hollywoodienne, en fait. Et au tout début, il avait un pied dans la musique, un pied dans le cinéma, et il travaillait comme pianiste. Et c'est en tant que pianiste qu'il a commencé à travailler dans le système hollywoodien, notamment en jouant dans des BO connus. Mais au début, il ne s'imaginait pas du tout comme compositeur, ni comme chef d'orchestre. Williams, le soir, quand il rentrait à la maison, il y avait des musiciens à table à manger, quoi. Il y avait des livres de théorie musicale qui traînaient à la maison. Il a vraiment été baigné, imprégné par ça. Et dans les années 50, il y a aussi, c'est ce que je raconte dans le livre, une loi qui est passée et qui interdisait de réutiliser les musiques dans les séries télé. Et du coup, ça a forcé les chaînes de télé et les studios à faire appel à des musiciens pour créer des heures et des heures de musique. Donc à un moment, Williams raconte qu'il était dans une pièce, on parlait de pièce justement, il était dans une pièce et à côté il y avait la Lucifrine, à côté il y avait Quincy Jones, et voilà, ils étaient 3-4 comme ça et ils travaillaient comme ça à la chaîne sur des BO de séries. Et quand on regarde sa filmographie sur IMDb, il y a des dizaines et des dizaines d'épisodes qu'il a mis en musique, donc pour lui c'était un apprentissage incroyable. Et un jour, on lui a demandé d'écrire des arrangements pour tel film ou telle série. Et puis après, on lui a demandé de remplacer un chef d'orchestre qui était malade pendant une session. Donc voilà, petit à petit, il a monté les échelons et il a fini par écrire ses propres BO. Et cette première période des années 60, il l'a faite vraiment sous l'influence du compositeur qui était le compositeur phare à l'époque, c'était Henry Mancini. Parce qu'à l'époque, la musique dominante, c'était le jazz. Et petit à petit, quand on écoute ses premières BO, on sent cette influence très forte, hein, notamment dans Comment voler un million de dollars, qui est un score délicieux, mais très influencé par Mancini. Petit à petit, on on voit que Williams va s'en détacher pour trouver sa propre voie, et ça va commencer notamment soit avec des films de western, soit avec des films catastrophes. Et vraiment, c'est dans ces deux genres-là qu'il va commencer à faire ses armes et qu'il va commencer à construire son propre style, tout en gardant une affection pour le jazz, parce que c'est vraiment... pour lui, c'est sa base, quoi. C'est son enseignement. Donc, c'est quelque part, c'est son âme, quoi, le jazz. Et ça, on le ressent très fort quand il y revient, notamment pour le générique de Catch Me If You Can, ou le générique de The Terminal, où il fait des retours en fait à cette veine jazzy. Et là, c'est un plaisir pour l'auditeur, quoi, parce que voilà, on sent un Williams qui s'amuse, et on s'amuse avec lui, ou même avec la BO de Tintin.
Et donc ce livre est très agréable à lire, vous avez le sens du storytelling, et un peu comme un roman en fait, la manière de romancer sa vie est très intéressante, avec des rebondissements, c'est relaté à une success story en quelque sorte, avec les éléments du récit qui l'ont aidé ou qui l'ont entravé.
Spielberg était très fan de musique de film, et notamment de deux scores de Williams, et dont l'un était The Ravers. L'exécutif de la Universal a organisé un repas pour que Williams rencontre Spielberg. Et Spielberg, il lui a tout de suite parlé de ces films-là, et du coup, ça a créé un lien entre eux. Leur amitié s'est construite sur ça, sur la cinéphilie et le goût pour la musique de Spielberg. Et je pense que c'est aussi pour ça que leur collaboration a été si fructueuse. C'est parce que Spielberg a toujours su laisser de la place à la musique de Williams. Et ça n'a pas toujours été le cas. De toute façon, c'est pas compliqué. Quand on regarde l'histoire du cinéma, les plus grandes collaborations, c'est souvent celles dans lesquelles, effectivement, le réalisateur laisse la place à la musique. Et parfois, un peu trop. Dans le cas d'Hitchcock, par exemple, peut-être que c'est ça qui l'a gêné à la fin avec Herman. Mais le fait est qu'avec Spielberg et Williams, il y a eu vraiment une symbiose. Et qui a duré. Et ça allait jusqu'au point que Williams aimait les choix de scénario de Spielberg. Et en fait, ils avaient vraiment une communauté d'esprit, une communauté de goût. Ils avaient ce goût pour l'histoire, ils avaient ce goût pour la science-fiction. Ils aimaient le même genre d'histoire, en fait. Et c'était naturel pour eux de... Enfin, je ne vais pas en parler au passé. C'est naturel pour eux de travailler ensemble. Et c'est pour ça qu'on attend avec impatience le prochain Spielberg, parce que Williams a promis qu'il, qui reviendrait au travail pour lui.
C'est vrai qu'il y a cette idée dans la collaboration du réalisateur qui sait accorder de la place à la musique, et l'inverse est vrai, c'est un compositeur, John Williams, qui sait accorder de la place au cinéma. C'est-à-dire que quand le cinéma est meilleur sans la musique, il sait aussi parfois s'absenter. Et cela, ce sont des compositeurs cinéastes, des compositeurs amoureux du cinéma. Est-ce que d'après vous, John Williams était vraiment cinéphile ?
Cinéphile, non, je pense pas. Je pense pas. En fait, c'est un peu comme Morricone, c'est que c'est vraiment des gens qui sont des esclaves de leur travail, quoi. Et c'est vraiment des bourreaux de travail qui travaillent tout le temps. Williams dit qu'il passe au moins une heure chaque jour à jouer du piano, à composer, à travailler. Et en fait, il fait beaucoup de concerts. Bon, maintenant, il a ralenti parce qu'il est assez âgé. Mais pendant toute sa vie, il n'a pas arrêté de travailler. Ça lui laissait peu de temps pour voir les films. Par contre, c'est un lecteur assez avide. Et c'est arrivé deux ou trois fois, j'en parle dans mon livre, que ça soit lui qui contacte le réalisateur pour travailler sur le film parce qu'il avait aimé le livre qu'il avait lu. Voilà, ça c'est assez rare. Et Williams l'a fait très peu, il l'a fait trois ou quatre fois.
Il y a des détracteurs parfois de John Williams qui considèrent que c'est un plagieur. Hein, et vous n'évincez pas ce qu'on peut qualifier de plagiat, mais vous le dites que c'est un pasticheur. C'est-à-dire qu'il assume le pastiche.
Le style de Williams, il est en même temps caractéristique, c'est-à-dire qu'on peut le caractériser assez facilement. J'essaye de le faire dans le livre. Mais en même temps, c'est un style complètement adaptatif. Et on s'aperçoit des pastiches, en fait, c'est pas tellement. En fait, ce sont plus des citations qu'il aime faire, parce que c'est quelqu'un qui, comme tous les grands compositeurs, connaît très bien l'histoire de la musique classique. Et ça lui arrive de citer, par exemple, le Dies Irae, qui est un poème liturgique. Ça lui arrive d'utiliser souvent la quinte juste, qui permet de. Voilà, surtout dans les motifs héroïques, c'est une méthode musicale de composition qui a été très utilisée en musique classique. Et en fait, c'est quelqu'un de très savant, Williams. Soudé dehors comme ça, bonhomme, toujours en train de sourire et tout, c'est vraiment quelqu'un de très très calé musicalement. Et c'est d'ailleurs les retours que j'ai eus aussi de musiciens qui ont travaillé avec lui. Et donc le style Williams, non seulement il s'adapte très bien à chaque sujet, mais aussi il sait s'adapter à différentes formes musicales que la musique classique elle-même. Il le fait parfois avec plus de succès, parfois avec moins de succès. Je parle en fait de fusion entre deux genres, entre son genre à lui et un genre étranger. On le voit par exemple dans « Mémoire d'une geisha », où il essaye de s'adapter à ce monde japonais. La fusion se passe moyennement bien parce que bon, ça reste quand même séparé. Mais par contre, dans la liste de Schindler, son style s'adapte très bien à la musique yiddish. Et on peut dire la même chose aussi dans Rosewood. Rosewood, c'est le sud américain, c'est l'americana, et son style s'adapte très bien à ça aussi.
pas le mot caméléon, mais en tout cas, vous dites voilà, qu'il passe d'un style à l'autre. Donc, il y a cette capacité, cette versatilité qui lui vient peut-être du jazz.
Oui, tout à fait. En fait, dans beaucoup de ses scores, il y a des morceaux qui peuvent être considérés comme atonales ou atonaux. Mais c'est rarement le score en entier, en fait. Et c'est ça aussi qui fait la richesse de son œuvre. C'est que dans des films comme La Guerre des Mondes, même dans certains Indiana Jones, il y a des passages de musique atonale, même chez Harry Potter. Hein, et en fait, c'est aussi ça son talent, c'est qu'il arrive à fusionner en fait différentes formes musicales dans une forme qui englobe tout et qui est au service du film, mais qui touche le spectateur aussi. Et ça, moi, je trouve ça génial. Comme par exemple, ces passages dans tous les Indiana Jones, il y a un passage dans une pièce avec des insectes qui vous montent dessus et tout. Et ça, il le fait très bien en musique en utilisant des percussions pour des morceaux qui sont atonaux. Et on peut dire aussi dans Star Wars, il y a aussi pas mal de passages qui sont atonaux. Donc, en fait, lui, il ne se limite pas à un genre en particulier. La musique, c'est vraiment une boîte à outils et il aime piocher dans tout.
Dans le style de John Williams, hein, qu'à travers ce livre, vous définissez, vous explorez, vous dites aussi que le style Williams, c'est le fait d'être drôle, de faire de la musique drôle.
La violoncelliste Cécile Yatsan m'a dit, et ça m'avait un peu surpris quand elle me l'a dit, que c'est quelqu'un de très drôle. Et apparemment, pendant les enregistrements, entre les morceaux, il fait des blagues. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui est pince sans rire, en fait. Et quand on le voit en interview, moi j'ai vu des dizaines d'interviews de Williams, il est toujours affable, agréable, souriant, jamais un mot plus haut que l'autre. Alors que Morricone, on sent que c'était vraiment quelqu'un de complexe et de torturé. Il n'y a pas ce côté torturé chez Williams, même s'il a une zone d'ombre. Il faut savoir qu'au milieu des années 70, il y a sa femme qui est décédée. Ça a été un gros choc pour lui. Il a complètement remis à plat toute sa façon de travailler. Et pour lui, il en a parlé des années plus tard en disant que c'était une forme de renaissance, qu'en fait, cette perte l'avait encouragé dans sa voix, en fait, quelque part.
Vous définissez aussi sa plus grande qualité, et vous dites que sa plus grande qualité, c'est de parvenir à capturer le sujet du film instantanément. Donc il y a cette idée magique de correspondre au film.
Oui, c'est ça, et ça, c'est pas donné à tout le monde d'avoir ce talent. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que John Williams a souvent remplacé d'autres compositeurs sur des films, compositeurs qui ne correspondaient pas à ce que les producteurs attendaient. Donc, on va choisir l'option la plus sûre. On peut se le payer, donc on va prendre Williams. Par contre, Williams, lui, n'a jamais été débarqué d'un film. Donc ça, c'est quand même assez rare. Il y a d'autres très grands compositeurs qui n'ont pas eu cette chance-là. Mais lui, il n'a jamais été débarqué d'un film. Bon, ça ne veut pas dire qu'il est meilleur que les autres. Hein. Peut-être qu'il a eu plus de chance que les autres. Mais en tout cas, ça veut dire qu'il savait très bien s'adapter, effectivement, comme vous dites, à la demande. Et il a travaillé avec plein de réalisateurs différents, hein, que ce soit Oliver Stone. Et à chaque fois, il a su se fondre dans leur univers, quoi. C'est pas évident quand on est un compositeur de s'entendre aussi, parce qu'il y a le côté humain, on parle toujours du côté artistique, mais le cinéma et la musique, il y a le côté humain, c'est-à-dire qu'il faut s'entendre avec la personne.
Ce qui est aussi intéressant, c'est que vous avez voulu être le plus accessible possible, évidemment, pour le néophyte de musique de film. Et ce qui est intéressant, c'est que vous évoquez des termes que l'on peut connaître, comme le spotting, le temp track, etc. Et à chaque fois, vous l'expliquez. Donc, il y a à un moment donné des petites parenthèses d'explication des termes. Donc ça, c'était vraiment important pour vous.
Oui, c'était important. C'était très important de ne pas perdre le lecteur en route. Et c'était aussi une volonté de mon éditeur et de pouvoir faire vraiment un ouvrage grand public qui ne soit pas destiné uniquement aux musicologues ou aux fans de musique ou aux fans de cinéma, mais qui soit vraiment capable de toucher le grand public et d'expliquer certains concepts qui à première vue peuvent paraître ardus, mais qui en fait donnent des pistes aux gens pour ensuite, s'ils veulent en savoir plus, aller explorer. Et c'est vrai que quand on écrit sur la musique, on est confronté à cette difficulté de mettre des mots sur quelque chose qui est impalpable, en fait. Et c'est ça qui est difficile. Et c'est un peu plus simple quand on fait, par exemple, un podcast. Ben voilà, on parle d'un morceau, on passe le morceau, les gens comprennent tout de suite. Donc, à l'écrit, il faut pouvoir être précis et vraiment expliquer les concepts avec précision.
Et à ceux qui pourraient craindre un ouvrage hagiographique, en hommage sans réserve à John Williams, j'apprécie également que vous émettiez parfois des réserves sur certaines BO, notamment celles que j'apprécie, et donc on n'est pas d'accord, mais c'est bien, Complot de famille, que vous considérez comme mal utilisé dans le film d'Hitchcock, ou des réserves aussi sur Minority Report, où là vous dites, je cite, que John Williams tourne en rond.
Ben, j'essaye de pas de garder un esprit critique, quoi. Pour moi, c'est vraiment important. Et effectivement, William, c'est un grand compositeur, tout le monde le reconnaît. Mais parfois, on peut avoir des périodes, on peut avoir des œuvres qui sont moins pertinentes. Et je trouve qu'effectivement, il y en a quelques-unes qui sont pour moi moins pertinentes. Mais après, c'est une question de goût. Je sais que pour Hook, par exemple, que moi j'estime moyennement, je sais qu'il y en a qui sont très très fans de la BO de Hook. Il faut aussi parler du problème du design sonore, c'est-à-dire que il y a eu toute une période où la musique était vraiment mise en avant, et ensuite on est arrivé dans les années 2010-2020 à une période où le design sonore a pris plus de place. Et où, en fait, Williams devait se battre un petit peu pour garder la place sur la bande-son. Sa musique s'en est peut-être ressentie aussi. Enfin, elle était moins visible, moins audible.
D'ailleurs, c'est la grande question dans l'appréciation de la musique de film. Est-ce que c'est la musique à l'écoute seule ou est-ce que c'est la musique dans le film? Est-ce que, par exemple, vous aviez ce dilemme dans cet ouvrage d'une musique que vous appréciez, mais justement à la vision du film inexistante, et inversement?
Ce que dit William, c'est qu'il ne doit pas remarquer la musique. Mais en fait, je pense que c'est une sorte de fausse modestie. En fait, même William, s'il pousse le bouchon même très loin, il dit que la musique ne devrait pas s'écouter en fait en dehors du film, parce que c'est juste un élément du film pour soutenir la narration. Mais le fait est que voilà, on écoute les BO de Williams en dehors du film, évidemment. Souvent, en fait, la réussite d'un film, c'est une globalité en fait. On peut pas détacher, par exemple, Indiana Jones de sa musique. On peut plus les détacher. On peut pas détacher Star Wars. Il suffit de regarder. Vous faites un essai, vous mettez le début d'un Indiana Jones ou le début d'un Star Wars et vous coupez le son, ben vous verrez ce qui manque, quoi. Enfin, vous verrez, là c'est flagrant, il manque vraiment quelque chose. Et l'apport musical de Williams au cinéma est énorme pour ça. Après, si on n'aime pas un film, c'est rare que la musique nous fasse aimer, quoi.
Ensuite, vous avez fait un peu de comptabilité que je n'avais pas forcément faite, et du coup j'ai découvert en lisant votre livre, par exemple, que à ses débuts, il avait fait 25 films en 12 ans, ce qui est hallucinant, deux films par an, enfin ce qui n'est pas extraordinaire quand on sait que Morricone pouvait en faire 10 dans une année, mais c'est hallucinant au regard de ses dernières 20 années où il faisait quasiment que Star Wars et Spielberg. Comment vous expliquez 25 films en 12 ans à ses débuts et la raréfaction de ces dernières années que l'on ne peut pas forcément mettre uniquement au crédit de son âge?
Il a eu envie de se dégager du temps du cinéma pour se consacrer à la musique de concert. Et ça a pris de plus en plus de place. Il faut savoir que John Williams, c'est quelqu'un qui a écrit des concertos, qui a écrit une symphonie, qui a écrit beaucoup, beaucoup de choses. Même en dehors de la salle de concert, il a écrit pour la télévision américaine, pour des événements. Il y a une liste vraiment impressionnante d'œuvres qu'il a écrites, qui sont citées à la fin de mon livre, et qui montrent à quel point il a été sollicité par énormément de gens, hein, que ce soit par exemple pour l'intronisation de Barack Obama, pour des événements historiques autour de l'histoire de la déclaration d'indépendance aux États-Unis, pour les Jeux Olympiques aussi. Il a écrit plusieurs hymnes pour les Jeux Olympiques, sans parler du fait qu'il a aussi été pendant 15 ans directeur du Boston Pops Orchestra, qui est un orchestre de Boston très connu aux États-Unis. Et ça l'a vraiment beaucoup occupé. Et donc je pense que l'âge venant, il s'est dit, je vais faire moins de films et je vais me concentrer sur la musique de concert. Non pas qu'il avait besoin de reconnaissance, parce que la reconnaissance, il l'avait déjà, mais tout simplement par goût. Et c'est vrai que quand on écoute sa musique de concert, on peut avoir beaucoup plus de mal à accrocher que sa musique de film, parce que c'est beaucoup plus exigeant.
Et au-delà de ses choix personnels à lui, de son manque de temps également, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une mauvaise adaptation, une inadaptation de son style, de sa personnalité au cinéma et aux exigences de l'industrie d'aujourd'hui ? Et vous avez un chapitre d'ailleurs, ou un paragraphe que vous avez appelé « Quel est l'avenir de la musique de film ?» Est-ce qu'il y a de cela aussi ? C'est-à-dire que cet avenir ou cette actualité de la musique de film ne lui convient plus ?
C'est vrai que c'est un peu un dinosaure aujourd'hui, William. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui compose encore avec un crayon et un papier, alors que la plupart des compositeurs aujourd'hui utilisent des outils numériques. Il y a une anecdote qui est amusante d'ailleurs sur le troisième Harry Potter. Le réalisateur Alfonso Cuarón commence à travailler ensemble et tout. Puis à un moment, il lui demande « Fais-moi écouter tes maquettes, quoi, pour que je vois un petit peu ce que tu as fait. » Et là, William se dit non, je suis désolé, je ne fais pas de maquettes. Des maquettes, c'est ce que font les compositeurs avec leur clavier, leur ordinateur, pour faire des sortes de brouillons, quoi. Et lui, il ne fait pas du tout ça. Et il dit viens à mon piano, je vais te faire écouter ce que j'ai fait. Mais c'est vraiment, avec la Lou Schifrin, le dernier représentant de ce qui restera comme un âge d'or hollywoodien, en fait. Et c'est vrai que dans le paysage actuel, il est très très apprécié, il est adoré par tout le monde. Tout le monde espère qu'il va continuer à faire de la musique. Mais en même temps, il y a beaucoup de gens qui ont pris sa place aujourd'hui et qui ont une autre façon d'envisager la musique. Quand on écoute les BO de films récents comme Dune, deuxième partie, comme tous les films américains, Blade Runner 2049, on s'aperçoit que c'est pas du tout la même esthétique musicale. On est dans une esthétique musicale qui englobe toute la piste sonore, et en fait on est pour moi plus proche du sound design que de la musique, mais après c'est une question de goût. On dit souvent, aujourd'hui il y a Hans Zimmer et John Williams, c'est caricatural de dire ça, mais n'empêche que c'est les deux plus connus aujourd'hui du grand public. Et ils ont tous les deux une approche très, très différente.
Est-ce que justement Hans Zimmer sera le prochain ouvrage ?
Non, je ne crois pas. Je ne suis pas fan de... Assez fan en tout cas de Hans Zimmer, même si j'apprécie certaines de ses BO. Mais moi, je reste quand même attaché à une forme plus classique de la musique de film. Et il y a d'autres compositeurs de l'âge d'or qui mériteraient aussi qu'on parle d'eux.
Et donc déjà une idée pour le prochain, ou c'est pas encore du tout pensé ?
C'est pas encore pensé.
Et pour terminer, avec une question qui aurait pu ouvrir d'ailleurs cet entretien, c'est que vous n'avez pas rencontré John Williams pour cet ouvrage, mais maintenant qu'il est fait, est-ce que vous avez le désir de le rencontrer ?
Ah oui, ça, j'aurais toujours le désir de le rencontrer. Je pense que si j'habitais à Los Angeles, ça serait plus facile. Mais cela dit, au début de mon travail, j'ai contacté son agent pour savoir s'il serait d'accord pour participer au livre. Et son agent m'a dit qu'il ne participait jamais à des projets de livre. Donc voilà. Après, sa parole ne m'a pas manqué, parce qu'il a donné des dizaines, voire des centaines d'interviews, que ce soit en vidéo, par écrit. Donc j'avais beaucoup, beaucoup de matière, énormément de matière. Mais c'est vrai que le rencontrer en personne... Et surtout le voir en concert, ce serait une expérience extraordinaire. Mais malheureusement, en France, c'est pas prévu qu'il vienne en France.
En tout cas, le fait qu'il n'ait pas été impliqué dans l'ouvrage, je trouve que c'est au bénéfice de l'ouvrage. Avec ce regard distant, d'amoureux, de critique aussi, peut-être que désormais, cet ouvrage fera référence, peut-être même traduit, et peut-être que c'est John Williams qui aura ensuite le désir de rencontrer l'auteur de cet ouvrage. En tout cas, c'est tout le bien que je vous souhaite.
Merci beaucoup, ça sera un rêve.
L'œuvre de John Williams par Jean-Christophe Manusso. Merci Jean-Christophe.
Merci à vous.